des droits.
Rendez-vous tous les lundis des semaines paires avec Pulsan, l'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Ce soir, nous parlerons d'une molécule fabuleuse, une substance miracle à laquelle nous devons la vie. Il s'agit de l'eau et nous irons à la recherche de l'eau dans le système solaire. Et bien entendu, nos rubriques habituelles, le ciel du mois et un petit point d'actualité avec la station Mir. Mais tout d'abord, quelques petites nouvelles brèves. Tout d'abord, nous progressons dans l'archéologie de la Société d'Astronomie de Nantes. Nous vous avons conté lors de la dernière émission très brièvement l'histoire de notre société. Vous vous souvenez peut-être que nous avons dit qu'elle était née en 1884, soit 3 ans avant la Société Astronomique de France. Donc nous sommes l'une des premières de France, avec comme président d'honneur Camille Flammarion. Nous avons retrouvé 2 articles du phare de la Loire, qui est l'ancêtre de Presse-Océan. L'un datant du 2 décembre 1884 et un autre plus ancien datant du 6 juin. Le 2 décembre 1984, nous vous avons dit il y a quelque temps qu'une société astronomique se constituait à Nantes sous les auspices de Monsieur Camille Flammarion. Nous apprenons aujourd'hui que sa création est un fait accompli. Alors, Monsieur Texier, l'un de nos adhérents, a retrouvé également un article qui date du 6 juin, qui dit « Nous apprenons qu'il vient de se fonder à Nantes une société astronomique sous la présidence d'honneur de Camille Flammarion. Monsieur le maire a mis gracieusement à la disposition de la société le local et les instruments de l'observatoire de la ville situé rue de Flandre 18 pour y installer son siège social et son observatoire. » Il semblerait donc que la société soit née aux alentours du printemps 1884. Hein. Nous allons donc affiner ce point-là. Savez-vous, outre le fait que Camille Flammarion fut président d'honneur, que cette première société réalisa des observations de la supernova apparue dans la galaxie d'Andromède en 1885. Donc dès sa naissance, une année après, la société se faisait connaître. Parallèlement, nous progressons dans nos recherches sur l'ancien observatoire de Saint-Donatien. Il y avait dans le jardin du presbytère de la basilique Saint-Donatien une coupole de 3 mètres de diamètre environ sous laquelle dormait une lunette de 125 mm. Et nous vous conterons cela lors d'une prochaine émission dès que nous aurons vérifié toutes nos informations. Car malheureusement, cet observatoire fut détruit et nous avons beaucoup de mal à rassembler aujourd'hui les pièces du puzzle. C'est pour ça que je fais une petite annonce, si parmi nos auditeurs, il en est peut-être qui ont entendu parler de cet observatoire ou qui connaissent des personnes qui l'ont connu. Et je rappelle qu'il s'agit donc de l'observatoire de Saint-Donatien. Et si vous avez donc des informations, contactez-nous, n'hésitez pas. Soit vous écrivez à la Société d'Astronomie de Nantes, 35 boulevard Louis Millet, téléphone 02 40 68 91 20. Ou alors vous faites un email à san@san-fr.com. Voilà pour mes petites informations. Est-ce que vous en avez d'autres, chers amis, Stéphane, Véronique?
L'information, je crois, de la semaine, ça va être la chute de Mir. Hein, en ce moment, elle est à peu près à 228 km au-dessus de nos têtes, et puis il va falloir attendre qu'elle arrive à 220 km pour que les Russes puissent accélérer cette descente et la faire tomber. Donc je pense que tout à l'heure, Fabrice nous en parlera un petit peu plus, donc réservons le suspense.
C'est prévu. Et Véronique a une petite information.
Pas pour tout de suite.
Tu vas nous parler, toi, tout à l'heure du ciel du mois. Hein, ça sera l'une de nos 2 rubriques habituelles. Alors moi, je ne peux pas résister à l'envie de vous parler, pour clore ce petit point, de la superbe conférence de Laurent Nautal que nous avons vécue vendredi dernier à la Salle Bretagne. Bien sûr, le public était au rendez-vous, on était fort nombreux et c'était un grand moment. C'était vraiment, quelqu'un a dit dans la salle d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit exagéré, bien que ce soit très flatteur. Cette personne a dit, écoutez, moi je ne sais pas, personne n'osera peut-être vous le dire, mais moi j'ai envie les gens qui ont entendu Newton ou Einstein en personne, et moi j'ai l'impression d'avoir vécu ce soir un moment semblable. Et il a dit ça, Laurent Nautal, et c'est vrai que Laurent est quelqu'un d'extraordinaire. Il a, avec sa théorie, qui essaye de comprendre l'univers à travers les fractales, et surtout d'essayer de comprendre comment l'univers se structure lui-même à partir de cette force de gravitation à laquelle il applique, bien entendu, les principes de la relativité et de la physique quantique, mais d'une manière fort intelligente. Alors je vous invite beaucoup à découvrir sa théorie dans son livre qui s'appelle « La relativité dans tous ses états ». Il en a écrit d'autres, renseignez-vous.
Qui est paru en livre de poche même maintenant.
Qui est maintenant paru en poche, voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire pour tous ceux qui aiment comprendre la nature, au sens large. Voilà. Alors, tout de suite, nous passons à notre première rubrique de ce soir. Vous êtes sans doute impatients de savoir ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Eh bien, Véronique va nous le raconter. Alors Véronique, le balai des étoiles et des planètes, où en est-il en ce mois de mars 2001 ?
Bah, il se passe toujours au-dessus de nos têtes. Malheureusement, on n'a pas trop de chance parce qu'on est quand même pas mal embêté par les nuages et la pluie en ce moment. Donc il faut espérer que pour le mois à venir, eh bien, tous ces petits nuages nous oublient un peu et puis qu'on profite un petit peu, de, je dirais, du printemps.
Nous vivons une éclipse de soleil par les nuages.
Permanente, malheureusement, oui. Le principal, je dirais, événement justement de la semaine à venir, ça va être le printemps.
Ah, l'équinoxe. Ah,
l'équinoxe de printemps.
C'est lorsque la Terre passe au point vernal.
Voilà.
Les spécialistes.
Donc le point vernal, c'est le point d'intersection entre le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur.
Donc à l'équateur, le Soleil est au zénith.
Voilà, tout à fait. Donc bon, principalement, je dirais l'équinoxe de printemps, je vais vous en parler un petit peu, c'est qu'après on va pouvoir découvrir enfin les constellations du printemps. Et principalement les galaxies du printemps, qui sont, je dirais, bien réputées du côté des amateurs. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ce que je vais vous parler aussi, c'est de Vénus. Vénus, en ce moment, on en a bien profité.
On la voit beaucoup. Hein.
On la voit beaucoup, elle brille énormément, là. Et elle va disparaître le soir pour maintenant nous apparaître le matin. Tout ça, ça va se passer entre le 26 et le 27. Donc le 26, on va la voir le soir. Et le 27, on va la voir le matin. En moins de 24 heures, cette étoile du berger va être étoile de soir et étoile du matin. Alors, je dirais, ce qu'on peut dire sur Vénus, c'est qu'elle brille énormément en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus proche de nous, premièrement. Et si sa magnitude a quand même baissé ces derniers jours...
C'est-à-dire sa brillance,
voilà, son éclat a baissé. C'est qu'elle devient maintenant un fin croissant. Vénus, c'est un petit peu comme la Lune. On la voit en phase. Donc, on peut la voir en pleine Lune. Enfin, en plein Vénus, on va dire. Et on peut voir également en nouvelle Vénus et en quartier de Vénus.
On peut expliquer un peu comment ça se passe, parce que Vénus est entre nous et le Soleil.
Voilà.
Donc quand elle est derrière le Soleil par rapport à nous, on la voit complètement éclairée, mais très loin, ce qui fait qu'elle est petite, mais elle est pleine. Et puis, plus elle tourne autour du Soleil, elle va finir par passer entre nous et le Soleil. À ce moment-là, si elle est exactement entre nous et le Soleil, normalement, on ne la voit plus. Mmh. Et juste de part et d'autre, elle est vraiment très grande, parce qu'elle est très proche, mais enfin croissant. Alors, c'est tout un compromis, finalement, entre sa grosseur et la surface qui est éclairée. Alors, c'est pour ça que l'éclat, il change, mais en fait, il est vraiment beaucoup plus important lorsqu'elle est plus proche de nous.
Voilà. Et ce qui va justement se passer, c'est qu'entre le 26 et le 27, elle va passer entre nous et le Soleil. Donc avant, on l'avait le soir, et maintenant, on va l'avoir le matin. Donc voilà, maintenant, à l'observer, je dirais, aux lueurs encore du Soleil, que ce soit le soir ou que ce soit le matin.
Alors, on l'appelle l'étoile du berger tant qu'elle est du soir, mais lorsqu'elle sera du matin, l'étoile du berger, ça pourra être Jupiter, par exemple.
Voilà, ouais. Qui également se rapproche, je dirais, assez rapidement du Soleil. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce qui va se passer ce mois-ci ? C'est un petit peu des jeux d'ombre. Je ne sais pas si, pour ceux qui auraient, je dirais, une petite lunette ou même un petit télescope, amusez-vous à regarder un petit peu Jupiter et surtout le balai des ombres que provoquent un petit peu ces satellites. On a, je dirais, 4 dates à retenir, qui sont le 20 et le 27 mars, et également le 4 avril. Et je crois qu'il y en a une aussi, mais ce sera, je dirais, fin avril, donc on en reparlera plus tard. Où là, Ganymède et Europe s'amusent à passer un petit peu autour de Jupiter, et entre autres de projeter leur ombre. Donc n'hésitez pas à regarder Ganymède et Europe ces soirs-là, puisque vous allez voir, je dirais, les voir passer devant la planète et voir surtout leur ombre se déplacer les lunes à côté de l'autre. Donc ça peut être, je dirais, amusant à regarder, n'hésitez pas. Et autrement, quand même, petite anecdote pour les scientifiques, le 3 avril, la Terre va passer exactement à une unité astronomique du Soleil.
C'est-à-dire à
149 597 870 km et 691 pouillèmes derrière. Donc,
maintenant, on fait des mesures très, très précises.
Très, très précises.
Hein. Les premières mesures de l'unité astronomique, c'était vital pour comprendre tout plein de phénomènes et pour mesurer d'autres distances, notamment. Et on se souvient de toutes les mésaventures qui sont arrivées à ces pauvres scientifiques qui devaient aller quelquefois aux Indes ou ailleurs, et dont l'un, d'ailleurs, est revenu. Ses biens avaient été dilapidés tellement ce voyage était long, on le croyait mort. Enfin, on vous racontera ça un jour aussi.
Oui, ça peut être, je dirais, assez marrant à raconter. Autrement, donc, je vous parlais tout à l'heure du printemps. Et entre autres, des fameuses galaxies du printemps. Il y a trois constellations principales à observer en ce moment, qui sont la constellation du Lion, la chevelure de Bérénice et la Vierge. Pour les trouver, vous récupérez la Grande Ourse, vous descendez, je dirais, sur l'horizon sud, et vous allez avoir le Lion, la Vierge, et juste au-dessus, la chevelure de Bérénice.
Il est assez grand, le Lion. Je le dis parce que moi, j'ai mis longtemps à le trouver un jour. La première
fois. Il y a une étoile très brillante, ouais. Régulus aussi, ouais. Qui est facile à reconnaître. Et l'épi également de la Vierge, qui est une étoile très, très brillante.
Spica.
Voilà. Et la Vierge, c'est un peu facile à... Ça ressemble un petit peu à un cerf-volant. Donc, vous pouvez vous amuser à un cerf-volant de côté. Donc, amusez-vous. Pour vous parler un petit peu, justement, de tous ces amas de galaxies, au niveau du Lion, on va retrouver M65, 66, 96, 95, et puis des NGC également. Ces galaxies sont situées en moyenne entre 20 et 29 millions d'années-lumière de nous, donc assez brillantes, principalement elliptiques ou spirales, voilà. Et puis autrement, vous avez principalement également dans la constellation de la Vierge, la fameuse galaxie du Sombrero, qui est également très connue et qui va être, je dirais, bien visible maintenant. Il y a M49, M58, M61, 84, 87, enfin tout ça pour leur petit nom, pour ceux qui connaissent.
Ça fait référence
un petit
au catalogue de Messier.
De Messier, hein. Voilà, tout à fait. M pour Messier, puisque c'est lui qui les a observés, voilà. Et qui les a, je dirais, catalogués. Et par contre, au niveau de l'amas de la Vierge, les galaxies sont à peu près situées entre 40 et 50 millions d'années-lumière.
Eh oui, ça ne nous rajeunit pas,
voilà.
Puisque
voilà, c'est plus loin que le Lion.
Nous les voyons telles qu'elles étaient il y a 50 millions d'années.
Voilà. Donc. Je dirais à vos télescopes,
vos lunettes,
et puis profitez-en, puisque les galaxies du printemps sont quand même assez exceptionnelles. C'est des objets qui sont assez brillants, qui ont des formes bien différentes les unes des autres, et qui sont assez facilement repérables.
Ils sont assez lumineuses, une galaxie.
Il faut quand même signaler
que ce sont des petits objets flous qui peuvent décevoir le débutant, mais quand on sait ce que ça représente, c'est-à-dire des ensembles de plusieurs dizaines ou centaines de milliards d'étoiles, c'est quand même assez émouvant.
Surtout que beaucoup sont, je dirais, par regroupement. Donc quand on en voit un petit peu dans l'oculaire, on n'a qu'à bouger un tout petit peu, et puis il y en a d'autres qui se détachent tout autour, finalement, qu'on n'aurait pas soupçonné.
Ah, ça fait des amas, comme disait Laurent Nottal, n'est-ce pas ?
Et pour les observer, il faut un instrument... De quelle taille ?
Oh, je dirais avec un 200 mm, même avec un 115. Un 115-900, déjà, je dirais bien profiter des objets. Avec un 200, là, vous allez vraiment commencer à voir les détails. La galaxie du Sombrero, par exemple, qui est visible, vous verrez bien une tache floue, plus elliptique, avec un 115-900. Si vous avez un 200, vous allez commencer à voir la bande sombre qui va traverser cette fameuse galaxie du Sombrero.
Et si vous voulez savoir où se trouvent ces galaxies, à quoi elles ressemblent, allez sur notre site assan-fr.com et vous aurez des liens vers des grands observatoires. Enfin, n'hésitez pas à surfer sur le web. Voilà, eh bien, nous allons... Merci beaucoup Véronique.
De rien.
Nous allons donc maintenant vous présenter le premier thème, enfin le thème de cette soirée, qui est la recherche de l'eau dans le système solaire, en compagnie de Christophe Sautin, qui effectivement nous avons réalisé l'interview de Christophe avant sa conférence. Alors, tout de suite, nous allons annoncer ce thème. Alors, Christophe Sautin, il va être présenté dans l'interview, mais quelques mots sur cette conférence qui a eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle au mois de janvier dernier. Nous avons demandé à Christophe, enfin plutôt, il nous a proposé de parler de la recherche de l'eau dans le système solaire. Christophe Sautin, en quelques mots, est un géologue spécialiste des planètes, laboratoire de planétologie de Nantes d'ailleurs, et il fait des expériences sur la glace. Et en même temps, il étudie bien sûr les états de l'eau, et ce que l'eau, où est-ce qu'on en trouve et comment on peut la détecter. Alors vous savez que l'eau c'est quelque chose de très important puisque l'eau c'est à l'origine de la vie, ou plutôt il n'y aurait pas de vie sans eau. Donc trouver de l'eau quelque part, c'est assez émouvant, c'est assez intéressant. Et on va en chercher dans le système solaire, et avec les méthodes qu'on développe dans le système solaire, on va peut-être pouvoir en trouver ailleurs. Eh bien, nous allons écouter la première partie de cette interview par Christophe Sautin. Christophe, je te remercie d'avoir accepté une fois de plus de nous faire une conférence dans le cadre des conférences de la SAN. Ô combien intéressante, parce que tu étais directeur du laboratoire de géophysique et de paléontologie de l'Université de Nantes, professeur à cette université, et en ce moment tu voyages beaucoup parce qu'il se passe plein de choses dans le monde à propos des sondes, à propos des résultats qui vont aller justement investiguer le système solaire. Il y a la question bien sûr de la structure de toutes ces planètes, de ces corps, et une des substances qui revient sur toutes ces planètes, c'est l'eau. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que l'eau pour un géophysicien. Peux-tu un peu essayer de résumer ce que tout le monde croit connaître?
Pour tout le monde, l'eau c'est le liquide que l'on boit. Mais en fait, l'eau a trois états, un état solide, un état liquide et un état gazeux. Donc, quand on étudie les planètes, on va trouver l'eau suivant l'un de ces états, ou suivant deux de ces états, ou suivant trois de ces états. Enfin, tout dépend des conditions de température, de pression que l'on peut rencontrer sur les planètes. Donc évidemment sur Terre, la Terre occupe une place un peu particulière, puisque sur la Terre, on sait qu'au pôle, on a la glace, donc l'eau sous forme solide, on a les océans, donc l'eau sous forme liquide, et puis dans l'atmosphère, eh bien, on trouve aussi de l'eau sous forme gazeuse.
On a les trois états de l'eau, on a cette chance, on pourrait dire, sur la planète Terre, de connaître ces trois formes de l'eau, parce qu'il n'en est pas ainsi partout, je suppose.
Ah non, on a longtemps pensé que sur Mars, il pouvait y avoir de l'eau liquide, par exemple, qui coulait à la surface, mais on sait qu'il n'y a pas d'eau liquide actuellement à la surface de Mars. Mais par contre, donc, sur les autres planètes, si on fait un petit peu l'inventaire, sur Mars, on a trouvé de l'eau sous forme de glace. On sait que le pôle nord et le pôle sud de la planète Mars est recouvert d'une calotte, et on sait que cette calotte, c'est une calotte d'eau solide. Sur d'autres planètes, on va trouver l'eau sous forme gazeuse. Et ça, on l'a détecté grâce aux observations astronomiques.
Par exemple, sur Vénus, non ?
Alors sur Vénus, oui, il y a un peu d'eau. Hein. Ça se compte en parties par million, c'est-à-dire c'est vraiment pas beaucoup. Hein. S'il y a une molécule d'eau pour, il y a une molécule d'eau pour 200 000 particules de molécules.
Parce que l'atmosphère de Vénus est essentiellement du gaz carbonique.
Voilà, là j'avais pris l'exemple de l'azote, mais en fait 97% de l'atmosphère de Vénus c'est du CO2, 3% c'est de l'azote, et puis après on va trouver un petit peu de gaz rare, mais on trouve aussi un petit peu d'eau, H2O. Alors il faut voir que H2O c'est forcément une molécule qui est très courante, l'eau c'est forcément une molécule très courante, puisqu'elle est formée d'hydrogène, et l'hydrogène c'est l'atome le plus courant, le plus abondant, aussi bien dans les étoiles que dans le milieu interstellaire.
Et même dans les êtres vivants, d'ailleurs.
Et aussi, oui, dans les êtres vivants. Et puis la molécule d'oxygène, qui est aussi une molécule qui est très très présente. Donc les molécules d'eau, c'est normal qu'on en trouve, mais on ne la trouve pas forcément sous ces trois états partout. On va la trouver principalement sous l'état gazeux, en fait.
Alors effectivement, c'est l'eau liquide qui est souvent impliquée dans les mécanismes de la vie, mais la molécule d'eau en elle-même est un corps chimique qui présente des propriétés très intéressantes pour la vie et pour autre chose d'ailleurs.
Pour la congélation.
Maintenant, d'où elle vient cette eau sur les planètes, donc telluriques, les planètes rocheuses, parce que je suppose qu'elle est surtout représentée sur les planètes rocheuses.
Alors tout dépend si les satellites des planètes géantes, on les considère ou non comme des planètes rocheuses. Parce que sur les satellites des planètes géantes, on va aussi trouver beaucoup de molécules d'eau.
Sur les planètes rocheuses, on peut dire. Elles ressemblent beaucoup à la Lune, à la Terre, en fait.
D'accord, à ce moment-là, on peut dire que ce sont des planètes telluriques. J'ai comme ça.
D'ailleurs, j'avais le... Bien, mais je crois que nous avons quelques petits ennuis techniques sur cet enregistrement qui a été, je dois le dire parce que vous avez sans doute, vous êtes aperçu des petits bruits de fourchettes, de cuillères, etc. C'est assez amusant parce que Christophe Sautin était très peu disponible, donc nous l'avons invité au restaurant avant. Je ne vais pas le nommer pour ne pas faire de publicité sur Alternante. Et on m'a demandé un petit coin calme, hein, vous voyez ce que ça peut donner dans un restaurant, donc il y a cet aspect-là. Alors on va peut-être pouvoir reprendre cette interview Non, alors... Donc Christophe Sautin nous a parlé des trois états de l'eau, hein, c'est principalement la glace, l'eau liquide et la vapeur, ça c'est ce qu'on connaît sur Terre, mais je crois que Véronique, toi tu sais que au laboratoire de planétologie où tu fais ta thèse, donc chez Christophe Sautin hein, bien sûr notamment, on connaît beaucoup plus que trois états de l'eau.
Oui, parce que finalement ce qui se passe c'est que l'eau se trouve sous différentes formes à cause de deux paramètres, la pression et la température. Et donc, dans un diagramme, on met là, je dirais, la pression en ordonnée, la température en abscisse, et on va obtenir, à l'intérieur de ce graphe, plusieurs états de l'eau. Donc, on va retrouver l'eau liquide, on va retrouver l'eau sous forme de glace, on va retrouver l'eau également sous forme de vapeur.
Et parce qu'on peut préciser que bah, tout le monde connaît la cocotte minute, hein, donc si vous augmentez la pression, tout le monde sait que l'eau, par exemple, elle bout à plus que 100 degrés.
Voilà,
c'est ça. Si vous imaginez que vous faites l'inverse, vous pouvez diminuer la pression, l'eau va bouillir à 80, d'ailleurs en montagne, c'est ce qu'on observe, vous qui allez dans les observatoires en
haut d'un petit trou,
vous faites bouillir l'eau à 80 degrés, et les tisanes sont certainement moins bonnes.
Mais on s'y fait.
Et bien si vous prolongez dans l'imagination cette baisse de pression, hein, vous pouvez donc si vous faites descendre la poupée, la faire descendre à un point tel que finalement l'eau va bouillir à 20 degrés, à 10 degrés et même à 0 degré. C'est ce qui se passe sur Mars. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau boit 0 degré? Ben, elle se transforme directement de glace en vapeur d'eau.
Voilà, c'est ça. On a alors, des.
C'est pour ça que les trois paramètres, oui, pression, température et. Ben, c'est ça, pression,
oui, voilà,
température interviennent en même temps.
Principalement. Et je dirais que
et
c'est
composition,
même,
peut-être.
Voilà, c'est encore même plus compliqué que ça, puisque après, quand on prend un état, on va prendre la glace. Qui est, je dirais, un cas un petit peu, justement, spécial. La glace, on la trouve également sous plusieurs formes. Ce qui est étonnant, parce qu'on se dirait la glace d'eau, c'est de la glace d'eau. Et finalement, on a la glace 1, la glace 2, la glace 3, qui sont, suivant son numéro, correspondent à des structures cristallines différentes. Et ces structures cristallines, eh bien, sont reliées à la température et à la pression. Ce qui fait que ces glaces, eh bien, n'ont pas tout à voir les mêmes propriétés physique et chimique. Donc ça ne va pas réagir pareil suivant les milieux. Donc là, c'est justement un petit peu sur le quoi travaille le laboratoire de Nantes, là, où je travaille également. Et il travaille justement grâce à ce qu'on appelle un appareil haute pression, où il reconstitue les conditions en température et en pression sur des petits cristaux de glace, dans des cellules en saphir. Et là, en retrouvant ces différentes structures, essaye de comprendre et de retracer les différentes compositions que peut avoir la glace, suivant la température, les pressions, et retrouver ces conditions, essayer de refaire les conditions qu'on trouve sur certaines planètes.
C'est-à-dire, oui, simuler en quelque sorte ce qu'on trouve sur les planètes pour essayer de comprendre par rapport à ce qu'on observe, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, la composition du sol, de la croûte, par exemple la croûte d'Europe, le satellite de Jupiter, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, ou Christophe
oui,
Sautin.
Oui, tout à fait, il y a Europe, il y a Ganymède aussi qui commence maintenant à rentrer dans le jeu, où là on se retrouve avec une couche de glace, et ensuite, en dessous, un océan liquide. Donc là c'est pareil, entre les deux, il y a toute une partie où finalement la glace n'est ni solide ni liquide, où il y a pas mal de choses. En dessous de la partie glace-eau liquide, c'est pareil, on se retrouve avec le manteau de la planète, donc avec des silicates, et ces silicates recontaminent, je dirais, la glace, l'eau, ce qui va lui donner d'autres propriétés, et entre autres le fait, par exemple, de lui donner un champ magnétique, entre autres pour Ganymède, où là on se retrouve avec un océan liquide qui justement provoque d'eau salée finalement.
Et c'est pour ça qu'il va nous en parler, je crois, dans une autre partie de cette interview, la détection d'un champ magnétique, ça permet, c'est une preuve en quelque sorte qu'il y a de l'eau,
oui.
Inversement.
Oui.
Donc c'est vraiment très intéressant parce que on a la conjonction, là, finalement pour des études d'astronomie, de planétologie, hein, il faut la conjonction de géologues, Et puis aussi, bah, géologues, je dirais géologues qui connaissent la composition, la structure de la glace, mais aussi peut-être de, pas de géographes, mais de ceux qui étudient les structures externes. Par exemple, depuis qu'on a les sondes Galiléo, hein, depuis qu'on a les images des sondes Galiléo, on voit des détails extrêmement fins. Et pour un géologue, bref, c'est très parlant, un peu comme quand on regarde, vu d'avion, un fleuve, un bassin versant. Eh bien, on a tout de suite une idée de l'écoulement des eaux dans un pays.
Je peux même, je dirais, rajouter un petit peu au niveau du laboratoire, c'est que des personnes au laboratoire travaillent justement sur cette surface d'Europe, sur laquelle on a pu cartographier grâce aux sondes les structures et entre autres les déplacements finalement d'icebergs. Ça a vraiment tout à fait cette situation-là, avec des icebergs qui déplacent les uns derrière les autres.
C'est un peu chaotique, on a l'impression que les blocs de glace se montent dessus, un peu comme quand on a des alternances de gel et de dégel.
Mais il y a plusieurs structures, il y a ce qu'on appelle comme des diapires, il y a vraiment des mouvements de frottement au niveau des icebergs, et au laboratoire, ils travaillent un petit peu avec justement les géologues, pour retrouver un petit peu comment se passe cette structure, un petit peu comme font les géologues sur la Terre finalement.
Alors je suppose que pour faire des simulations en laboratoire, il faut avoir des mesures précises, c'est-à-dire savoir en fait quelle est la pression, quelle est la température.
Oui.
Donc il faut d'abord, avant de lancer une sonde, avoir une petite idée de ce qu'on va peut-être trouver, ensuite faire des mesures bien précises, et puis ensuite faire les expériences en laboratoire pour à nouveau peut-être reconfirmer le modèle ou l'affirmer. Donc je suppose que votre travail, c'est un peu un travail d'approximation.
En fait. Voilà,
c'est par dichotomie, par approximation que vous travaillez là.
Oui, disons qu'il y a des modèles qui nous disent ce serait un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Donc on essaie de retracer ces conditions-là. Une fois qu'on a retracé à peu près ces conditions avec toujours plein de paramètres qui vont induire des erreurs ou des incertitudes, vont nous dire ça devrait réagir comme ci ou comme ça. Du coup, on envoie notre sonde et puis on voit si ça colle.
Le problème, c'est qu'on envoie une sonde, mais on a les résultats combien de temps après ?
Oui, je dirais même plus que ça. Ça dépend. Là, sur la sonde Cassini qui est partie en 97, qui arrive en 2004 au niveau de Titan, ça c'est pareil. Titan, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans son atmosphère. Ça reste encore, je dirais, au stade de modèle. Donc là, justement, on va peut-être avoir un petit peu de résultats.
Juste pour situer les choses, il y a des pressions de l'ordre de... C'est quel ordre de grandeur les pressions, à peu près ?
Je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend tellement d'une planète à l'autre que il y a quand même une large...
Oui, ça dépend de la pesanteur sur la planète, de la composition, de la nature des gaz, de l'épaisseur de l'atmosphère, ça dépend d'énormément de paramètres, et de la température, bien entendu. On va parler justement tout à l'heure de Cassini-Huygens, après une petite pause musicale qui est tout à fait dans le thème, puisque nous allons vous proposer une chanson de Véronique Sanson, justement, « Rien que de l'eau ». C'était Rien que de l'eau par Véronique Sanson. C'était tout à fait en accord avec le thème l'eau dans le système solaire de Christophe Sautin. Nous avons eu quelques petits ennuis sur la première plage et on a essayé de vous raconter un peu ce que racontait Christophe Sautin. Nous allons passer à la deuxième partie de cette interview qui a été enregistrée à l'occasion de la semaine de l'astronomie du mois de janvier. Et là, Christophe Sautin va nous parler de comment on étudie la structure interne des planètes. Alors, nous allons entendre Christophe Sautin, qui était donc enregistré au mois de janvier, à propos de sa conférence à la recherche de l'eau dans le système solaire.
Pour en fait étudier les structures internes des planètes, on a des techniques, par exemple les techniques sismologiques, c'est-à-dire qui consistent à installer des sismomètres à la surface d'une planète. On peut aussi regarder l'intérieur d'une planète en utilisant des radars. Alors les radars ne vont pas pénétrer très profondément à l'intérieur d'une planète, généralement ils vont pénétrer jusqu'à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres à l'intérieur de la planète. C'est des techniques qui sont aussi utilisées sur Terre. Et on envisage en 2003 d'envoyer un radar sur une sonde qui est fabriquée par l'Agence spatiale européenne. Par exemple, à 300 mètres de profondeur dans Mars ou à 3 km de profondeur, on aura une surface qui va réfléchir le signal et ça, on va le détecter très très bien. Et sur Terre, ça marche très très bien aussi. Donc en fait, on est en train d'exporter en orbite autour des autres planètes des techniques qu'on a déjà validées sur Terre.
Alors, concrètement, toutes ces diverses techniques dont vous nous parlez, je suppose que vous les avez embarquées dans des sondes. Autour de quel corps est-ce que vous les avez envoyées? Et puis, je suppose que l'actualité est un petit peu chaude en ce moment.
Alors en fait, on n'a pas le radar, on ne l'a pas encore envoyé sur les sondes. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sonde Galileo, qui est une sonde qui est actuellement dans le système de Jupiter, et cette sonde Galileo a fourni des informations sur la surface des satellites de Jupiter. Donc, les satellites qui sont assez étonnants sont en particulier Europe, Callisto et Ganymède. Et sur ces satellites, on a détecté des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues. Par exemple, Ganymède, qui est un satellite composé à peu près de moitié de glace et moitié de roche, on a trouvé qu'il y avait un champ magnétique propre pour cette planète, alors qu'on imaginait qu'elle était complètement gelée, donc qu'elle était complètement solide, qu'il n'y avait aucune raison de trouver un champ magnétique. Et on trouve un champ magnétique comme la Terre, c'est-à-dire elle a un champ magnétique propre. Pour avoir un champ magnétique propre, il faut qu'il y ait une enveloppe fluide à l'intérieur de la planète, une enveloppe fluide qui soit conductrice. Donc on a deux solutions, soit il y a un noyau de fer liquide à l'intérieur de Ganymède, mais ça implique des températures qui sont très élevées, soit autrement, il y a un océan avec des sels dans cet océan, donc cet océan est conducteur, et cet océan est suffisamment important, sans doute suffisamment salé, pour pouvoir générer un champ magnétique. On n'a pas encore d'explication, on ne sait pas expliquer pourquoi il y aurait un champ magnétique, mais c'est une possibilité.
Donc Christophe Sautin, cela reste une méthode indirecte de détection de la présence de l'eau entre deux couches, du manteau planétaire de Ganymède.
Oui, deux couches de glace.
Deux couches de glace, oui. Et c'est une méthode en fait indirecte, comme par exemple, on pourrait aussi penser à la tectonique de la croûte superficielle de Ganymède. On en déduit en fait présence d'un corps fluide en dessous de...
Là c'est plus compliqué parce que la tectonique, par exemple, on sait que sur Terre, la tectonique des plaques, donc on a des montagnes, on a des déformations, et c'est pas lié à la présence d'une couche fluide, c'est lié au fait qu'il y a de la convection, mais à l'état solide à l'intérieur de la Terre. On a du solide qui se déforme à l'échelle des temps géologiques, et ça crée quand même de la déformation. Donc on pourrait imaginer aussi que la tectonique de Ganymède, ce que l'on voit à la surface de Ganymède, c'est lié en fait à de la glace qui se déforme très lentement à l'échelle des temps géologiques. Alors la glace qui se déforme, on en connaît sur Terre, les glaciers se déforment, les glaciers se déplacent, donc même à l'échelle humaine, on voit des déplacements de glaciers. Et ces déplacements de glaciers, ça peut aussi donner donc une tectonique de glace, qui est différente. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une couche d'eau pour expliquer la tectonique de surface. De même sur Europe, parce que j'en ai pas encore parlé de ce satellite, sur Europe c'est pareil, on voit une tectonique à la surface d'Europe, mais on n'a pas besoin d'invoquer la présence d'eau en profondeur dans Europe pour expliquer cette tectonique. Alors par contre, effectivement, c'est une possibilité d'avoir de l'eau. C'est une possibilité, on l'a pas
démontré. Ah, ça rue. Bien, nous avons des petits problèmes, toujours. C'est la planétologie, c'est chaotique. Il y a des problèmes de tectonique aussi sur le mini-disque qui est enregistré. Alors, j'ai oublié de dire que c'était une interview réalisée par Gaël Vincent et Stéphane Lega. Stéphane qui est parmi nous, Gaël tout à l'heure. Deux choses qu'on pourrait effectivement, où Christophe Sautin a fait un distinguo. D'une part, la tectonique elle-même, c'est-à-dire l'étude des déformations. Ces déformations n'ont pas besoin d'eau. Mais deuxièmement, la présence d'eau. Et la présence d'eau, on la détecte pas uniquement par la tectonique, on la détecte aussi, ça c'est très curieux, par le champ magnétique. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors aussi, petit rappel sur la tectonique elle-même, sur les techniques sismiques. Vous le savez que sur Terre aussi, on utilise ça, on fait exploser des petites charges à la surface du sol, et puis on analyse les échos. Et quand le son, en quelque sorte, qui se propage très vite dans les solides, rencontre une discontinuité, comme on dit, c'est-à-dire un changement d'épaisseur, enfin de concentration des roches dans l'intérieur de la Terre, eh bien on sait qu'il y a là un changement majeur dans notre globe.
Oui, on mesure un petit peu les vitesses des ondes, ce qu'on appelle les ondes P et les ondes S, où je dirais, je crois que c'est les ondes S qui du coup ne se propagent pas dans le liquide. Donc là, on sait qu'on est atteint au niveau du niveau et qu'on arrive au niveau du noyau ou qu'on a tout au moins une couche liquide et non pas solide. Et donc, c'est ces retards, finalement, d'ondes qu'on mesure et qu'on retranscrit en profondeur et en discontinuité.
Donc, ces techniques de sismologie, comme il l'a dit, Christophe Sautin, sont exportées en planétologie.
Hein. C'est... Oui. Alors, Et on a vu aussi l'an dernier, au travers d'une conférence de Sylvie Vauclair, que c'est une technique qui est aussi utilisée pour le soleil.
Et pour, pour le soleil.
Ouais, donc des séances d'héliosismologie qui permettent d'étudier justement la structure du soleil.
Alors nous en parlerons peut-être un petit peu plus tout à l'heure, là, un mini-débat que nous aurons à la suite de cette interview. Nous allons tout de suite, nous lui avons posé des questions à Christophe Sautin, sur la présence d'eau sur la Lune, et donc Christophe Sautin va vous parler de l'eau, hein, de l'eau sur la Lune, et avec l'émission aussi Cassini-Huygens.
Moi j'avais une petite question que les gens peut-être doivent se poser, la fameuse eau sur la Lune.
Ce qu'on a trouvé sur la Lune, c'est en fait la présence d'hydrogène. Et en fait, la seule façon d'expliquer l'hydrogène, une façon facile d'expliquer l'hydrogène, c'est qu'on est de la glace sur les calottes polaires de la Lune. Parce que il y a des cratères et il y a des endroits sur la Lune qui ne voient jamais le soleil, du fait qu'ils sont au fond des cratères. Donc c'est une des possibilités, mais là c'est pareil, c'est une méthode indirecte, c'est une méthode qui est basée sur la mesure des neutrons rapides et qui pénètre donc un petit peu à l'intérieur de la Lune. Et il y a d'autres explications. S'il y a des argiles, par exemple, ça devrait aussi la présence d'hydrogène. Donc l'eau est une solution. Maintenant, pour en être sûr, il faudrait aller voir.
Alors, là, vous venez de parler de Galileo, donc la sonde qui a étudié le système jovien. Vous participez aussi, il me semble, à la sonde Cassini-Huygens, donc qui recherche certains éléments sur Titan. Au bout du compte, qu'est-ce que vous cherchez ? La vie ?
Ah non, moi je ne cherche pas la vie. Moi j'essaie de comprendre l'évolution des conditions physiques, chimiques sur les différentes planètes. Essayer de comprendre des processus comme pourquoi est-ce que sur Terre il y a une tectonique des plaques, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la tectonique des plaques sur Mars ou sur Vénus. Qu'est-ce qui s'est passé juste après l'accrétion? Pourquoi finalement après l'accrétion sur Terre la vie a pu démarrer après le premier milliard d'années? Quelles étaient les conditions physico-chimiques qui ont permis le démarrage de la vie? Comment ces conditions physico-chimiques étaient différentes sur d'autres planètes, que ce soit Mars, que ce soit Vénus, que ce soit les satellites de Jupiter ou de Saturne? Donc c'est plutôt les mécanismes qui gouvernent l'évolution des planètes qui m'intéressent. Alors comme résultat de ces processus, évidemment, on a la fabrication des atmosphères, on a la formation de l'eau, la formation de l'eau soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide.
Donc après Galileo, on a un petit peu évoqué Cassini-Huygens. Dans quelle mesure est-ce que vous avez participé à cette mission?
Pour Cassini, je fais partie de l'équipe de la caméra infrarouge, visible infrarouge, dont l'un des objectifs est de pouvoir cartographier la surface de Titan. Titan, c'est un satellite qui est de la même taille que Ganymède et Callisto, mais l'intérêt de Titan, c'est qu'il est entouré d'une atmosphère, une atmosphère d'azote, dans laquelle on trouve aussi du méthane et de l'éthane. On imaginait que le Titan, qui est un satellite où la température est de 100 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 180 degrés Celsius, avait piégé une atmosphère qui pourrait être l'équivalent de l'atmosphère terrestre lorsque la Terre s'est formée. Donc c'était intéressant parce qu'on avait finalement un modèle de l'atmosphère terrestre au moment de sa formation.
André Braik a une expression qui est assez pittoresque pour désigner Titan. Il compare Titan à une Terre qu'on aurait mis au congélateur.
Oui, ça c'est effectivement le modèle qu'on avait dans les années 80, lorsqu'on a conçu la mission Cassini. Mais depuis, on a fait des progrès dans la modélisation de la nébuleuse solaire et des sous-nébuleuses de Jupiter et de Saturne. Et on se rend compte que les espèces chimiques, les gaz qui étaient présents dans la sous-nébuleuse de Saturne étaient sans doute différents des gaz qui existaient dans l'environnement de la Terre, c'est-à-dire dans la nébuleuse solaire, dans l'environnement de la Terre, là où la Terre s'est formée. Donc on ne peut pas dire que Titan, c'est finalement une Terre qui a été congelée. D'abord, c'est beaucoup plus petit que la Terre. Et puis le rapport entre la quantité d'eau et la quantité de roche est beaucoup plus important sur Titan qu'il ne l'est sur la Terre.
Donc Cassini-Huygens, vous avez déjà eu quelques images, puisque là elle est pour l'instant dans le système de Jupiter. Moi j'ai vu certaines images, là c'est extraordinaire.
Bah, c'est extraordinaire, c'est moins beau que Galileo, on est loin de Jupiter, mais l'objectif, quand on est passé près de Jupiter, c'était pas tellement de prendre de belles images de Jupiter et des satellites, c'était surtout de tester tous les appareils qui sont à bord. Et les appareils marchent très très bien, donc on est effectivement très satisfait. Dans, dans 4 ans maintenant, en novembre, le 27 novembre 2004, la sonde Cassini fera son premier passage près de Titan. Normalement, elle doit passer à 1200 km de Titan. Et là, j'aurai ma caméra qui sera prête. On a vérifié le pointage de la caméra en se servant justement des satellites de Jupiter pour vérifier que notre pointage marchait très bien. Et tout fonctionne nominalement. Et donc, on a préparé les paramètres de pointage pour le premier survol de Titan.
Voilà, c'était Christophe Sautin que nous retrouverons tout à l'heure encore pour la dernière partie de cette interview que nous avions réalisée au cours de la semaine de l'astronomie où il nous parlait de la recherche de l'eau dans le système solaire. Alors, quelques commentaires rapides sur ce qu'on vient d'entendre, non, Véronique, Stéphane ? En fait, il parlait donc là des missions Cassini-Huygens, hein, dont nous avons vécu le départ, c'était en
97,
c'était lancé, et ça va arriver aux alentours de 2004. Titan 2004. Hein, là, ça va être un grand moment.
Voilà, donc ce qui se passe un petit peu, pourquoi est-ce qu'on dit toujours Cassini-Huygens ? C'est qu'il va y avoir un orbiteur appelé Cassini, voilà, qui va tourner autour du système du nom de Saturne.
De la dynastie, pourrait-on dire, voilà, des directeurs de l'Observatoire de Paris, qui sont originaires d'Italie.
C'était et des accroché, astronomes voilà, beurre, tout hein, à fait. On va dire. Et accroché donc à cet orbiteur Cassini, il y a une sonde qui, elle, s'appelle Huygens, qui va se détacher, qui va descendre dans l'atmosphère de Titan.
Et oui, qui va mesurer la composition de cette atmosphère. On est très intéressé parce que justement, Christophe Sautin a dit oui, enfin, pendant les années 80, on pensait que ça ressemblait à la Terre primitive. C'est pas tout à fait ça, mais il y a de ça et on va apprendre beaucoup de choses sur l'origine de la vie. Alors, nous allons en parler un peu plus tout à l'heure. Je vous propose tout de suite une pause musicale tout à fait en accord avec le thème de Christophe Sautin, les champs magnétiques de Jean-Michel Jarre. Voilà les champs magnétiques de Jean-Michel Jarre pour ponctuer cette interview de Christophe Sautin qui nous parlait d'ailleurs de la mesure des champs magnétiques qui était un moyen de détecter de l'eau sur les autres planètes ou les satellites qui peuplent le système solaire. Alors, nous allons reprendre pour la dernière partie de cette interview où Christophe Sautin va nous parler justement des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont autour d'autres étoiles. Et là aussi, on est très intéressé pour y détecter de l'eau. Mais alors là, c'est autrement plus difficile car ces planètes sont vraiment très très lointaines. D'ailleurs, on ne les a pas encore vues. On les a plutôt détectées par des méthodes indirectes, et l'infrarouge pour les poussières, l'oxygène peut-être, et justement l'eau. Alors, il va nous en parler ainsi que du chaos.
Alors Christophe Sautin, j'aimerais faire un lien entre votre conférence de ce soir et celle de Jacques Lascar sur le chaos dans le chaos dans les systèmes solaires. Est-ce que dans la communauté des géophysiciens, vous envisagez, dans le cadre par exemple de l'échappement d'une planète de son orbite, ce que peut prévoir dans les prochains 100 millions d'années les théories sur le chaos, est-ce que vous prévoyez donc dans ce cadre de l'échappement du orbital ou dans le cadre d'une collision interplanétaire, une nouvelle géophysique du système solaire ?
Alors moi, je regarde pas tellement les problèmes de collision entre une grosse météorite et puis une planète comme la Terre. Ça, c'est le domaine de Jacques Lascar, donc je me rends pas très bien compte de la probabilité qu'il y a pour qu'une grosse météorite rentre en collision avec la Terre et que cela modifie énormément les paramètres orbitaux de la Terre. Par contre, ce que l'on regarde, c'est quelle est l'influence des mouvements à l'intérieur de la Terre, donc des mouvements de convection, de la formation de nouveaux volcans à l'intérieur de la Terre, sur l'orbite terrestre.
Pour conclure, Christophe Sautin, toujours dans le domaine des interfaces qu'il peut y avoir entre votre domaine de la physique, la géophysique et les autres domaines qui étudient le système solaire dans d'autres modèles. Est-ce qu'avec l'émergence d'une nouvelle discipline de l'astrophysique planétaire, l'exoplanétologie, vous pouvez compléter en fait vos études de géophysique sur le système solaire grâce aux apports, d'éventuels apports que peuvent faire des gens comme Mayer et Queloz, les pionniers en matière d'exoplanétologie.
Oui, bien sûr. Simplement, actuellement, les planètes que l'on voit sur d'autres systèmes stellaires, on les voit très très mal. Donc ça ne nous apporte pas des contraintes très très fortes sur par exemple la structure de la Terre ou comment la Terre a évolué pendant les 4 périodes 5 milliards d'années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être mieux comprendre les premiers stades de formation. Là, on a par exemple découvert qu'il y avait des planètes de la taille de Jupiter qui étaient très proches d'une étoile. Bon, ça remet en cause les modèles d'accrétion qu'on avait, parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait avoir des Jupiter aussi proches d'une étoile. Donc il faut un petit peu repenser les modèles d'accrétion. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que de toute façon, tous les modèles que l'on bâtit sur l'évolution de la Terre, il faut bien qu'ils partent d'un point de départ, et le point de départ, c'est juste après l'accrétion. Donc on suit ces études-là de façon très précise. L'autre question qui se pose d'ailleurs, que se posent plutôt les gens qui étudient les exoplanètes, c'est quelle est par exemple la taille limite d'une planète comme la Terre. Est-ce qu'on peut avoir par exemple des Terres qui font 12 000 km de rayon plutôt que de faire 6 400 km? Donc là-dessus, on travaille au laboratoire sur essayer de trouver des modèles limites pour avoir des planètes qui soient à peu près de... Enfin, voir jusqu'où on peut fabriquer des planètes comme la Terre. Il y a des planètes qui ont une surface sur laquelle l'eau aurait pu exister sur les trois états, glace, liquide et gazeux.
Mais cette proximité dont vous parlez, cette proximité de la planète par rapport à son étoile dans les autres systèmes planétaires...
C'est pas entre les autres, hein, c'est...
Dans plusieurs systèmes planétaires récemment découverts. Ne contraint pas l'hypothèse qu'on a faite dans un déferlement médiatique sur Marcy et Butler, par exemple, les Américains, de l'hypothèse de l'existence possible de l'eau, pour revenir justement à votre sujet, la proximité de la planète par rapport à son étoile... entraîne qu'à la surface de la planète, on a une température de surface qui pourrait laisser valide l'hypothèse de la présence de l'eau liquide. Est-ce que c'est envisageable et on peut aller plus loin que ce cadre-là dans
l'avenir ? On peut voir que l'eau liquide, hein, c'est, comme je dis, c'est vraiment des conditions particulières de pression et de température. Il ne faut pas que la pression soit trop forte, il ne faut pas qu'elle soit trop faible, il ne faut pas que la température soit trop forte, il ne faut pas qu'elle soit trop faible. Et il n'y a pas simplement la distance à l'étoile qui fixe les conditions de pression et de température. Il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme les espèces gazeuses qui vont être présentes, quelle est la quantité de gaz, donc c'est l'atmosphère qui est là. S'il y a beaucoup d'atmosphère, la pression devient trop grande et on va plus trouver l'eau sous sa forme liquide. Donc c'est vraiment toute une série de phénomènes qu'il faut étudier. C'est la même chose si on a une planète qui est trop grosse, ça veut dire qu'il va y avoir sûrement un volcanisme qui va être très important, donc une quantité d'H2O qui va être énorme, mais ça va être de l'H2O qui va être sous forme gazeuse, et on va se retrouver plutôt dans une situation style Vénus, où on risque d'avoir un dégazage très important, non seulement de H2O mais de CO2, un effet de serre très fort, une température qui va être énorme, et donc la vie qui ne va pas pouvoir se développer, et puis ça va être une atmosphère principalement constituée de CO2. Donc il faut vraiment essayer de cerner l'ensemble de ces paramètres. Il n'y a pas que la distance à l'étoile qui intervient, il y a aussi la taille de la planète.
D'accord. Il faut rappeler effectivement qu'il n'y a pas que la température qui joue sur l'état physique d'un corps.
Non, il y a la pression. La pression, c'est très très important. Oui.
L'expérience intéressante, c'est de dilater une quantité d'eau dans une seringue et on voit tout de suite qu'elle peut être portée à ébullition à la température ambiante. Donc c'est vrai que c'est lié à la pression aussi. Christophe Sautin, je vous remercie beaucoup et nous n'avons plus, au nom de la SAN, qu'à vous souhaiter bonne chance dans la quête de l'eau.
Merci.
Bonne chance dans la quête de l'eau. Alors, un petit commentaire rapide sur ce que vous venez d'entendre de Christophe Sautin. Et notamment, il y a eu un petit passage sur la proximité des étoiles, enfin plutôt des planètes à l'étoile mère, un peu comme la Terre par rapport au Soleil. Et c'est vrai que pour que l'eau puisse exister, sous forme liquide, il faut une certaine distance à l'étoile. Et ce qui a beaucoup surpris les exoplanétologues, enfin quand on a découvert les premiers systèmes planétaires, pas les premiers un peu, mais notamment 51 Pégase et puis d'autres, c'est qu'on a découvert des planètes qui étaient vraiment très très proches de l'étoile. Alors ça a apparemment surpris tout le monde, sauf Laurent Nautal, qui encore une fois avait tout à fait prédit l'existence, la possibilité d'existence de planètes très proches. D'ailleurs, il est en train de chercher une petite ceinture d'astéroïdes à 0,18 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près 27 millions de kilomètres du Soleil. Alors ça, c'est pour le petit commentaire rapide. Vous venez d'entendre, rappelons-le, Christophe Sautin, qui est l'ex-directeur du laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes, qui est un laboratoire en pointe, qui est en train de monter, qui est devenu unité récemment du CNRS. Donc c'est un excellent laboratoire qui est peuplé de géologues, de géophysiciens, de géodynamiciens, et qui s'intéresse justement aux planètes. Alors ça, c'est une chance, j'allais dire, pour Nantes. C'est aussi une chance pour la Société d'astronomie, puisque nous apprenons les choses, on pourrait dire, en direct. Alors, tout de suite, un petit débat sur ce que nous avons entendu depuis le début de cette interview en s'agissant de cette quête de l'eau pour laquelle Gaël souhaitait à Christophe Sautin bonne chance. Cette eau qui nous intéresse d'une part dans le système solaire, parce que d'une part ça va expliquer, bon on va plus chercher la vie dans le système solaire, mais en tout cas ça va nous expliquer un certain nombre de structures et aussi la dynamique des... la tectonique de surface de certains satellites, et le petit couplet sur la recherche de l'eau dans les exoplanètes, ça c'est encore un petit peu anecdotique, on espère que ça va prendre tournure. Alors est-ce qu'il vous vient des commentaires au sujet de cette interview?
Bah moi je pense qu'en fait l'exoplanétologie et puis la recherche de l'eau en fait va prendre une envergure quand même assez étonnante, puisqu'il va y avoir des interféromètres géants qui vont être lancés sous peu, dans, je sais pas exactement dans combien de temps, enfin dans quelques années, de façon à avoir beaucoup plus de précision, et pourquoi pas de voir ces planètes en dehors du système solaire, et puis pourquoi pas y détecter, puisque au fin fond je pense qu'on essaie quand même de chercher la vie ailleurs.
Il y a ça, mais il y a effectivement... c'est vrai que c'est un peu le thème, curieusement, qui revient à la mode. Mais enfin, à juste titre, hein, faut bien dire que... Bon, d'une part, les méthodes de détection ont fait beaucoup de progrès en astronomie, en astrophysique, et notamment parce qu'il faut des appareils extrêmement sensibles, pointus. Je rappellerai juste une petite... pas une anecdote, puisqu'il s'agit des recherches d'Audouin Dollfus, autrefois... qui était le fils de Charles Dollfus, qui était aéronaute bien connu des aviateurs. Et Audouin Dollfus, astronome à Meudon, nous avons d'ailleurs fait venir pour une conférence il y a quelques années, qui est toujours vivant, et bien vivant d'ailleurs, qui est maintenant à la retraite, était l'un des pionniers dans la recherche de l'eau sur Mars. Et pour détecter l'eau, la vapeur d'eau sur la planète Mars, il fallait évidemment s'affranchir de cette monstrueuse quantité de vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire monter. Alors il est monté en ballon d'abord à 6000 mètres, et puis à 8000 mètres. Et on vous racontera d'ailleurs cette aventure une autre fois, parce que c'était extrêmement rocambolesque. Et pour redescendre, vous savez ce qu'il fit lors de sa deuxième expédition? Eh bien, il avait à peu près 500 ballons sondes météo qu'il entraînait vers les cieux. Et pour redescendre, il y avait un fusil. Et puis il tirait dans ses ballons un à un. Et ça lui a permis de descendre jusqu'au sol. Alors il y a des photos, il est avec son casque. Alors il a monté un télescope là-haut. C'est absolument ahurissant. Et Audouin Dollfus a donc détecté...
En quelle année ?
Dans les années... vous me posez une colle, là, je ne m'en souviens plus. Ça doit être dans les années peut-être 60 ou peut-être 50, mais alors peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, c'est pas très récent, mais c'est pas non plus très très vieux. Hein. Audouin Dollfus, il approche des 80 ans maintenant. Et bon, c'est assez intéressant de voir comment l'astronomie... Alors, à l'époque, on détectait la vapeur d'eau avec des méthodes infrarouges, je crois, mais c'était... ou de la spectroscopie, hein. Alors maintenant, on a d'autres méthodes. Il reste la spectroscopie, il reste l'infrarouge, et puis, mais avec des sensibilités décuplées ou centuplées, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. Véronique voulait intervenir tout à l'heure.
Oui, je voulais parler un petit peu justement de la recherche des exoplanètes. Principalement, je dirais la méthode la plus importante qui actuellement nous permet de découvrir des nouvelles planètes, ce sont des mesures de perturbations sur le mouvement de l'étoile. La planète tourne autour de l'étoile, et comme je dirais toute loi de gravitation, les deux corps s'attirent. Donc la planète va perturber la trajectoire de l'étoile, et c'est ces perturbations-là qu'on mesure, et qui nous permettent de retrouver ensuite notre planète finalement géante.
Méthode ancestrale, puisque la méthode des perturbations a été utilisée pour découvrir par exemple Neptune, hein, c'est tout bêtement.
C'est tout à fait les lois de la gravitation, tout bête. Voilà. Une chose aussi, c'est quand on l'a... Les moyens actuels ne permettent pas d'avoir des précisions suffisantes pour mesurer des perturbations dues à des petites planètes. Et en 2007, va être lancé un satellite qui s'appellera Corot, qui va lui avoir la précision nécessaire pour mesurer des trajectoires, des perturbations très faibles, régies par des petites planètes, style planète Terre. Donc à partir de 2007, quand le satellite va être, je dirais, lancé, mis, je dirais, en bonne position, en bonne orbite et autres, on pourra avoir des détections de planètes telluriques. Pour l'instant, on est limité aux planètes géantes par manque de précision.
Il faut se rendre compte un peu de ce que c'est, parce que si nous étions un extraterrestre et si on regardait le système solaire, d'abord on verrait le Soleil, la Terre serait noyée dans la lueur du Soleil, c'est clair. Pour un être très lointain, tout ce qu'il verrait du système solaire, c'est le Soleil et à la limite peut-être Jupiter et Saturne et encore. Par contre, détecter les perturbations que la Terre occasionne sur le Soleil, alors que la Terre fait 12 000 km de diamètre, hein, elle a beau avoir une densité de 5 fois supérieure à celle du Soleil, le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre, c'est-à-dire 3 fois la distance Terre-Lune. C'est une masse absolument colossale. Et pour faire bouger ça, bon, ça bouge vite, effectivement, sous l'influence de la Terre, mais alors très très peu. Donc il faut vraiment avoir des méthodes extrêmement sensibles.
Donc on verra ça en 2007, quand Corot sera lancé.
Et alors, quand est-ce qu'on pourra aussi voir ces planètes? Parce que finalement, pour l'instant, ce sont juste des méthodes indirectes. Quand est-ce qu'on pourra voir une belle planète bleue?
Pas tout de suite. Déjà, pour qu'elle soit bleue, il faudrait de l'eau. Donc est-ce qu'on aura la chance de tomber sur des planètes avec de l'eau? On verra bien. Le plus difficile, ce sera justement d'enlever toute cette luminosité de l'étoile. La mission Corot, c'est pareil. Ce sera toujours par des méthodes indirectes qu'on observera les planètes, je dirais, dites telluriques. Quand vraiment avoir des photos, là c'est pas pour tout de suite.
C'est Corot pour coronographe, non?
Non, ça n'a rien à voir. Je me souviens plus exactement de.
Parce que les
R-O-T. Oui, c'est O-R-O-T.
Oui, pardon. Alors, je fais amende honorable, hein, on ne peut pas tout savoir. Et en même temps, je sais que sur Beta Pictoris, par exemple, le premier système d'exoplanète qui a été trouvé, on a effectivement utilisé une méthode, on a occulté l'étoile centrale par un petit disque, hein, pour cacher sa lueur et pour mieux voir effectivement la couronne de poussière qui était censée receler des planètes autour de cette étoile. Ouais, c'est une des méthodes, hein, il y en a bien d'autres. Alors évidemment, l'idéal, ça serait qu'on voit passer, qu'on mesure ce qu'on peut appeler une variation d'éclat d'étoile, c'est-à-dire une variabilité de son éclat qui serait due à une éclipse partielle d'une planète qui passerait devant. Ça supposerait ça qu'on soit rigoureusement dans le plan de la planète.
Ça a déjà été fait, non?
Ça a été fait, ça a été observé une seule fois. On n'a pas toujours cette chance. Donc voilà pour les exoplanètes. Pour le reste de la recherche de l'eau, rappelons quand même, je pense que Christophe a dû en parler un petit peu dans son interview, mais c'est surtout axé sur les méthodes. Rappelons que la planète Mars, on savait qu'il y avait de l'eau pour deux raisons. Hein, bon, d'abord une méthode directe, comme je l'ai rappelé, notamment les recherches d'Audouin Dollfus et de bien d'autres, qui ont démontré la présence d'eau, de vapeur d'eau sur Mars, bien qu'en faible quantité, puisqu'elle est essentiellement piégée sous forme de glace. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure en début d'émission, cette glace se vaporise immédiatement, puisque la pression sur Mars est tellement faible que l'eau bout à 0 degré. Mais il y avait aussi des méthodes indirectes, des observations, par exemple, du sol martien. Lorsque vous regardez le sol martien, et les photos d'ailleurs des sondes l'ont montré, l'ont remontré, ce sont ces espèces de réseaux de fleuves que l'on voit. Et quand on voit ça, c'est très parlant pour un géographe. Il dit, là, il y a de l'eau qui a coulé. Ça se voit très bien, on analyse très bien. Donc, des écoulements d'eau, alors il y en a principalement de deux sortes. Il y a celle qu'il y avait autrefois. Hein, et puis il y a celles qui se produisent lorsqu'une météorite tombe et provoque par impact un échauffement temporaire et un écoulement d'eau immédiat et temporaire.
Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose sur les canaux martiens. Une étude a été faite aux États-Unis.
Et les fleuves, hein, parce que les canaux, ça fait référence à ce qui n'a pas existé. Bon, en fait, il y a quand même de l'eau, mais
oui, il y a quand même de l'eau, mais il faut savoir que de tels, je dirais, fleuves, de tels lits asséchés, ont pu être provoqués par de l'eau liquide, mais également par de l'eau sous forme de glace. Il faut le savoir.
Comme des glaciers.
Voilà, même principe que des glaciers. L'eau n'a pas forcément coulé de façon liquide. Ça, on ne saura pas, on le découvrira plus tard. Mais pour l'instant...
Je l'apprends.
Pour l'instant, on ne sait pas si c'est de l'eau liquide. On a découvert
que
de l'eau...
Ça fait les mêmes structures.
Ça fait exactement les mêmes structures. De l'eau sous forme de glace, forme de glacier.
Encore un rêve qui s'écroule. Je croyais qu'il y avait des palmiers autour de ces grands fleuves. Voilà, donc il y aurait bien d'autres choses à dire sur l'eau. Hein, c'est un sujet extrêmement riche. D'ailleurs, il y a quelques années, nous recevions ici même plutôt, à titre de conférencier,
quelqu'un qui nous a parlé de l'origine de la vie dans le système solaire, l'origine de la vie sur Terre. Et c'est un thème qu'on réabordera, et ça fera peut-être le thème d'une prochaine émission, car c'est un sujet qui a énormément évolué ces dernières années. Eh bien, maintenant, je vous propose, avant cette notre séquence d'actualité astro, les actus astro. Ah. Alors, mon cher Fabrice, il y a des actualités fort chaudes hein, en ce moment. Hot Actuality of the Sky, mon cher ami Fabrice va nous en narrer les péripéties.
Chaude, froide, enfin bon, d'ailleurs, juste avant de commencer, je voudrais rappeler, j'avais dû en parler une dernière actu astro par rapport à Mars, que ça pouvait être ni de l'eau ni de la glace qui avait coulé sur Mars, mais peut-être tout simplement le gaz carbonique liquide. On a de la glace, de gaz carbonique sur Mars, et se demande s'il y avait des écoulements de gaz carbonique.
Que de rêves qui s'écroulent.
Voilà.
Et toc.
Mais donc, pour revenir en réalité, comme tu dis, l'actualité va être très chaude dans la semaine à venir, en astronomie. Et particulièrement en astronautique, et surtout pour MIR. MIR, vous avez peut-être entendu parler quand même depuis des semaines et des semaines, et vous allez entendre parler à la télé certainement dans les jours à venir. MIR va nous tomber sur la tête, pas littéralement, mais va quand même retomber sur Terre, vendredi prochain. C'est d'après la dépêche, je retrouve mes notes, ça doit être à 5h, temps universel, vendredi matin, qu'ils vont déclencher la chute de MIR. Alors, pourquoi pas avant? Parce que on avait déjà annoncé chute de MIR le 6 mars, chute de MIR entre le 10 et le 15 mars, après chute de MIR le 22 mars, et maintenant le 23 mars. Alors, pourquoi
le 22 mars, c'était pas pour l'anniversaire du mouvement du 22 mars qu'a créé Cohn-Bendit autrefois, non?
Ah non, c'était que ça tombait bien, c'était le 22 mars. Mais non, c'est beaucoup plus physique et beaucoup plus
scientifique. Les jeunes ne connaissent pas ces dates historiques.
Et tu parles de choses que seul toi connais.
Voilà. C'est une raison beaucoup plus scientifique et beaucoup plus technique. C'est tout simplement pour arrêter la station MIR pour qu'elle tombe. Pour qu'elle tombe, il faut qu'elle ne soit pas trop haute. Pour qu'elle ne soit pas trop haute, il faut qu'elle freine. Et pour freiner, il faut qu'elle frotte sur quelque chose. Le quelque chose, c'est notre atmosphère. Et notre atmosphère a une particularité. Quand le vent solaire est fort, il gonfle. Et on avait prévu un vent solaire un peu plus important que celui-là actuellement. Donc une atmosphère plus gonflée. Et MIR qui aurait dû freiner beaucoup plus qu'elle ne l'a fait réellement. Donc elle aurait dû normalement être depuis le 6 mars en dessous de 220 km d'altitude. Elle n'y est pas encore d'ailleurs, elle y sera que vendredi. Elle est actuellement à 226 km au-dessus de notre tête.
C'est très difficile à prévoir. Hein, ça. Voilà. J'ai entendu ça, je ne sais plus où, que ça dépendait d'énormément de paramètres, la température hein, qui rend l'air plus ou moins fluide, la présence de particules plus ou moins denses, etc. Ce que tu disais,
ouais, tout gonflé, à fait. Voilà. Tout à fait, l'atmosphère gonfle et bon, ben, c'est une boîte de frottement après. La station, elle frotte sur les couches d'atmosphère, ralentit, et au bout d'un moment, on va pouvoir la faire basculer. Enfin, en tout état de cause, elle est maintenant trop basse, et ça, plus personne ne pourra rien y faire pour qu'on puisse la remonter, parce qu'il y a encore eu des dépêches qui ont dit « Oui, certains cosmonautes russes voudraient bien qu'on monte la station, maintenant c'est trop tard, on ne peut plus rien y faire, elle tombera quoi qu'il arrive. » Alors maintenant, espérons qu'elle tombe bien. On peut faire confiance à des ingénieurs européens qui vérifient la manœuvre. Donc il y a des chances que ça marche.
Sous-entendu, ce ne sont pas des... On ne va pas le dire ce soir. Hein.
On fait
une pause anti-américain.
Voilà. Pour parler des Américains, tiens, je vais passer un peu à l'ISS quand même, parce que pendant qu'on parle de détruire MIR, ils continuent leur mécano là-haut. Donc le module Destiny, qui est le module scientifique américain, a été assemblé à la station fin février. Et il a reçu, début mars, déjà une petite visite. C'était la visite d'un autre module, un module italien, qui est très pratique celui-là, puisqu'il est envoyé... Il est monté sur la navette, c'est le module Leonardo. Il est arrimé à la station, ça sert un peu de placard, de rangement, de tout ce qu'on veut, d'atelier de construction. On s'installe dedans, c'est pressurisé, on fait les travaux dans les modules, on décroche, on descend sur Terre avec.
Il faut espérer que si ça s'appelle Leonardo, qu'on ne va pas imiter le Titanic. Hein.
Voilà, c'est pas fait pour couler la station.
Alors c'est le module pizza, ça.
Voilà, c'est ça, c'est le module italien. Et bon, comme on fait plein de choses en même temps, pendant qu'ils ont monté le module, ils ont aussi remonté un nouvel équipage, ils ont fait le changement d'équipage. Donc il y a un nouvel équipage sur l'ISS, c'est Expedition 2 qui a remplacé Expedition 1. C'est vachement original.
C'est très original.
Enfin bon.
Il y a de l'ordre dans le ciel.
Il y a de l'ordre dans le ciel et tout va bien. Maintenant, quelques petites nouvelles des sondes qui se promènent dans l'univers. Et on ne peut pas dire que le temps soit au beau fixe pour les sondes. Tout d'abord, il y a une très 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 mauvaise nouvelle. La NASA vient de subir un grand coup de balai de la part du nouveau président des États-Unis, puisqu'il a annulé les crédits de la mission Pluto Kuiper Express, donc pour aller explorer Pluton, il n'y a plus de mission. Il a fait le programme d'avion spatial américain.
Elle était,
elle était déjà moribonde, mais voilà. Elle est morte définitivement.
Ils hésitaient entre Europa Orbiter et puis Pluto Kuiper.
Ils avaient réussi à retrouver quelques sous, maintenant il n'y a plus de sous. Le programme d'avion spatial américain est abandonné et le module d'habitation américain pour la station spatiale remis aux 40 Grecs. Donc tout ce qui compte maintenant, c'est une défense de basse altitude contre les missiles et d'envoyer un Américain sur Mars.
On va quand même rappeler, il faut le faire périodiquement pour la population, qu'elle sache que le télescope spatial, c'est bien joli, il fait 2 mètres de diamètre, c'est le fleuron de l'astronomie. Et ben, des télescopes spatiaux qui font 2 mètres, voire 4, voire 6 mètres de diamètre, mais au lieu d'être pointés vers les étoiles, ils sont pointés stupidement vers la Terre pour s'espionner. C'est digne de l'homme de Cro-Magnon, ce truc-là, même de Néandertal, on pourrait dire.
Tout à fait. Et au passage, d'ailleurs, en parlant de Hubble, on va juste signaler que l'interféromètre du VLT vient de faire ses premières prises de vue et qu'apparemment, ça promet de très beaux résultats.
C'est aussi bon, sinon meilleur
que Hubble.
Bah oui,
et ils ont des franges d'interférence dignes des livres, visiblement.
Waouh. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas de la faute de Hubble, parce que pour lancer un truc dans l'espace, le temps qu'on le conçoive, qu'il soit lancé, et si encore en plus on n'a pas des ennuis comme en 86 lors de l'explosion de la navette qui a retardé quand même le lancement de plusieurs années, eh bien il faut compter 20 ans entre le moment où c'est conçu et le moment où c'est opérationnel. Évidemment, la technologie sur Terre pendant ce temps-là fait d'énormes progrès.
Tout à fait, moi, c'est pareil pour les porte-avions, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Sinon, autre problème, parce que bon, on annule les missions, mais en plus les sondes qui sont en place ne fonctionnent plus. Galileo est tombé en panne, ou plus ou moins, parce qu'elle était quelque peu irradiée. Et Stardust, la mission qui doit aller explorer la comète Wild, fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire, quand on lui dit d'allumer une fois son moteur, elle allume deux fois. Quand tu lui dis tu te protèges, elle coupe le système, elle fait ce qu'elle veut. Enfin bon. Je vais terminer en vous parlant un peu de Io Ganymède, c'est le sujet.
Ne dit-on pas une fusée?
Ici. On va parler de Io Ganymède. Et parce qu'il y a deux petites nouvelles intéressantes. Sur Ganymède, déjà, il y a une nouvelle hypothèse qui permettrait d'expliquer pourquoi le relief de Ganymède a cette forme-là, avec des stries, de la glace striée. Ce serait des éruptions d'eau. On appelle ça des geysers, c'est nous, mais bon, ils appellent ça de l'activité cryovolcanique. Apparemment, il y aurait des éruptions d'eau. Mais le plus drôle, à mon sens, c'est l'information la plus amusante vient de Io, où on nous explique comment est-ce que sur Io, il peut y avoir des montagnes qui ne soient pas des volcans. Pour expliquer, Io, c'est finalement c'est un satellite qui est très agité, avec beaucoup d'activité. Et
il est souvent tiraillé par les forces de Mars et Jupiter.
Et sur Io, dès qu'il y a une surpression, il faut que ça s'évacue. Et des fois, il n'y a pas de volcan à proximité. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La pression s'évacue quand même, mais en poussant la croûte de Io, et ça fait une montagne. Et comme ça, on peut avoir des montagnes de la taille de l'Everest sur Io en 2 minutes, qui se forment. C'est vraiment extrêmement rapide. Enfin bon, tout ça pour montrer une fois de plus, et quand c'était le 13, donc la semaine dernière, où on fêtait les 220 ans de la découverte d'Uranus, déjà.
Uranus par un astronome amateur.
Ça montre une fois de plus que l'univers est plein de mystères et que l'astronomie est là pour nous amener à y percer.
Bravo, merci Fabrice pour ces nouvelles. Et bien entendu, on ne vous dit que le quart du dixième du commencement de l'embryon d'une, de tout ce qui se passe sur notre bonne planète Terre. Alors c'est déjà la fin de cette émission. Eh bien, je vais quand même vous donner quelques petites informations. Une petite annonce pour les anciens de la Société d'Astronomie, car on a beaucoup de retours de courrier. Pensez-vous que les gens qu'on a connus il y a 10, 20 ou 30 ans, eh bien, n'habitent pas forcément au même endroit. Donc, si vous nous entendez, les anciens de la SAN, écrivez-nous. Nous avons prévu une petite fête le 19 mai, réservée exclusivement aux adhérents, aux anciens adhérents. Je vous rappelle aussi de notre prochaine conférence le vendredi 27 avril à 21h. C'est la folle saga des calendriers par François Suager, magnifique conférence à la salle Bretagne. Je vous invite à y amener tous vos amis, c'est la conférence du printemps. Alors bien entendu, je vous rappelle aussi que la Société d'Astronomie fait séance, se réunit tous les vendredis soirs à partir de 20h30 au siège, au 35 boulevard Louis Millet, 44 300 Nantes, c'est dans la mairie de Doulon. C'est le téléphone 02 40 68 91 20 tous les matins. Vous pouvez aussi nous faire des petits courriers électroniques. san@fr.com. Et enfin, visitez notre site à l'adresse internet www.san-fr.com. Et pour terminer, bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission de ce soir. malgré tous les petits, les petites péripéties très amusantes. C'est ça la folie de l'astronomie. Merci à Véronique Dubois, Bruxelles Dumois, Fabrice Dubreuil pour sa rubrique Mire, Gaël Vincent et Stéphane Lega qui ont réalisé l'interview de Christophe Sautin, et Stéphane était avec nous ce soir. À la régie, vous aviez Frédéric Cavagnier et ses acolytes ou sbires, et moi-même, Daniel Verling, qui, tant bien que mal, a essayé de vous divertir avec de la science. Dieu sait que c'est facile, car la science, c'est un domaine passionnant, infiniment riche, et qui nous passionne, qui nous entraîne toujours loin dans le rêve. Toutes les semaines, restez avec nous, et loin de ces agitations de scarabées politiciens un petit peu partout sur cette planète. Eh bien, nous, on essaye d'élever un peu le débat. Là-haut, point de magouille. Si, il y a des magouilles d'étoiles, il y a plein de choses. Eh bien, merci beaucoup. Notre prochaine émission, ça sera le lundi 2 avril. Hein, ça sera toujours les lundis des semaines paires à 21h10 avec nous en direct sur Alternante. N'oubliez pas ce rendez-vous, ça sera juste avant les observations de la Lune qui se dérouleront dans le cadre de l'exposition Météorite au Muséum, comme je vous l'ai rappelé lors de la dernière émission. Venez nombreux, ça se passe derrière le planétarium. La première observation aura lieu le mardi 3 avril. Et voilà, il est l'heure de nous quitter. Nous allons... vous n'avez rien à ajouter, mes chers amis.
Non, bonsoir à tout le monde et bonne observation si les nuages enfin nous oublient.
Ouais, n'oubliez pas de sortir des jumelles, des télescopes et même vos yeux, tout simplement, qui sont des petits télescopes de 6 mm. Fabrice ?
Et profitez-en une dernière fois, vous pourrez peut-être voir un point très brillant dans le ciel, c'est Mire.
Ouah, Mire, il ne va pas le confondre avec Vénus. Alors, Vénus, c'est facile, ça fait un croissant. Et c'est pour retenir que bientôt, ça sera du matin. Les croissants, on les prend le matin. Eh bien, ça sera peut-être notre ça sera notre pensée du jour. Avec Vénus, je vous remercie d'être Vénus. Au revoir.